Vous écoutez
RMC.
8h passée de 1 minute. Très belle journée à tous sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. La déception est grande, c'est vrai, ce matin, mais la Coupe du Monde n'est pas finie. Les Bleus ont encore une petite finale à jouer samedi pour se consoler avant de tourner la page. Didier Deschamps va largement y revenir. On va aussi revenir dans ce journal sur la fin, normalement aujourd'hui, de l'interminable parcours du projet de loi sur la fin de vie. Et l'enquête qui avance aussi à Fontainebleau, où un jeune pompier volontaire de 18 ans reconnaît avoir déclenché un des incendies.
C'est dur de se remettre de ses émotions ce matin.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Et alors si c'est dur pour vous là ce matin au réveil, dites-vous que c'est encore plus dur pour les Français qui ont eu la bonne idée de partir en vacances en Espagne cette année et qui ont vécu là-bas donc la défaite 2-0 hier soir comme ici en Andalousie. Écoutez avec notre reporter Lucas Laubert.
La déception est si grande que certains touristes comme Patrick hésitent presque à faire leur valise.
Et on s'en va.
C'est terminé les vacances.
C'est terminé pour nous. On retourne en France.
Et si lui essaie de relativiser...
Je pense qu'ils ont surpassé l'équipe de France tout simplement.
Hein. Ne parlez plus d'Espagne à Owen, un peu mauvais perdant.
En plus, leur pain il est pas bon et ils ont même pas de viennoiserie.
Une défaite encore plus difficile à vivre car vécue au milieu des Espagnols...
C'est horrible.
Dans cet hôtel où la demi-finale était diffusée sur écran géant, des dizaines de maillots rouges, seulement quelques bleus... Vous vous êtes pas fait chandrer ?
Moi un peu, mais on m'a fait des petits gestes, mais rien de méchant.
Alors dans cette foule en délire, les vacanciers français ont tenté de passer inaperçus après la Marseillaise en début de match, plus un seul chant.
On pouvait pas avec cette foule en folie. Allez, on est chez eux quand même.
Là, bon, on s'est fait tout petit, ouais.
Et pour la suite des vacances ?
On va se faire tout petit aussi. Et puis voilà, on va terminer les vacances comme ça.
On va éviter s'habiller en bleu, mais du rouge.
Au moins, eux, se consolent-ils, ils ont la plage pour tenter d'oublier la défaite.
Alors tout le monde n'était pas triste, hein, paradoxalement, hier soir, écoutez ces scènes de liesse en Corse. Des chants, des klaxons, des fumigènes aussi allumés par des Corses qui fêtaient la défaite de la France. Ils l'avaient déjà fait il y a 4 ans lors de la défaite au Mondial au Qatar. Mais alors dans l'ensemble, on est nombreux à être comme la petite fille de Lucas Digne qui était filmée en pleurs hier soir dans les bras de sa maman. Et s'il y a autant de déceptions, c'est parce qu'on n'a pas reconnu les Bleus qui nous ont fait rêver pendant un mois, qui se sont fait manger donc par le collectif espagnol 2-0 la défaite hier soir. On remue le couteau dans la plaie avec vous hein, ce matin, Jean-Louis Tour, c'est vous qui étiez au commentaire hier soir sur RMC. Et on espère que les Bleus vont finir en beauté lors de la petite finale pour la dernière de Didier Deschamps.
Oui, on connaît donc la date de la fin de l'ère Didier Deschamps en équipe de France. Ce sera samedi lors du match pour la 3e place à Miami. Point final d'une aventure de 14 ans durant laquelle Deschamps aura ramené une 2e étoile avec le titre en 2018, 20 ans après avoir soulevé la première Coupe du Monde comme capitaine. À son crédit aussi, 2 finales perdues, l'Euro 2016 et le Mondial 2022. Et on ajoute depuis hier 2 demi-finales à l'Euro 2024 et au Mondial 2026. Ça c'est pour le bilan des résultats. Et au niveau du jeu, la France a régalé le public jusqu'au match d'hier, après des années d'ennui. Samedi contre le perdant d'Angleterre-Argentine, qui a lieu ce soir, il faudra essayer de finir sur une note positive, malgré la déception évidente d'un vestiaire anéanti, pour reprendre les mots de Deschamps après l'élimination hier. Les regards vont ensuite se tourner vers Zinedine Zidane. L'officialisation de son arrivée à la tête des Bleus devrait intervenir rapidement après la fin de la Coupe du Monde pour écrire un nouveau chapitre en bleu et vaincre la malédiction espagnole, ça tombe bien. C'est en Espagne que Zidane a connu ses succès d'entraîneur avec 3 Ligues des Champions avec le Real.
Et alors la petite finale, ce sera samedi, mais alors très tard, hein, 23h, vous pouvez déjà noter le rendez-vous, ce sera sur RMC évidemment à Miami. Face donc au perdant du match Angleterre-Argentine, la 2e demi-finale ce soir 21h qui se jouera à Atlanta. Un match qui a une très forte dimension historique entre Anglais et Argentins, comme nous le rappelle Aurélien Tiercin.
Tout a démarré sur les îles Malouines en 1982, un archipel de l'Atlantique Sud dominé par la couronne britannique, mais revendiqué par l'Argentine. La guerre a duré 3 mois, causant près de 1000 morts. Les Argentins n'ont pas oublié.
C'est un match à part à cause des Malouines, de tout ce qui s'est passé. On peut pas se dégonfler. C'est un match qu'on va gagner. On va aller de l'avant et on sait qu'il a une saveur particulière.
Très franchement, on attend ce match depuis plusieurs années et je pense que nous avons les armes pour prendre le dessus.
L'Argentine s'est déjà vengée en quart de finale du Mondial 1986. Maradona marque le but dit du siècle ainsi que la main de Dieu. Injustice pour les Anglais et Jamie qui veut punir son héritier Lionel Messi.
Messi est le plus grand joueur de l'histoire, mais c'est un vieux. Il est temps qu'il aille au lit et mette ses pantoufles.
Les Anglais craignent également l'arbitrage comme Liam.
If FIFA don't
Si la FIFA arrête de s'assurer que Messi gagne tous ses matchs, alors ça ira. Espérons que l'arbitre soit neutre et qu'on soit bon.
L'arbitre sera monsieur Ismail Elfat, et l'Angleterre tremble, car Messi a toujours gagné quand l'Américain était au sifflet de ses matchs.
Et la soirée a été quelque peu agitée à Paris et en banlieue parisienne, d'après les informations ce matin de BFM TV, puisqu'on dénombre 141 interpellations en marge de cette demi-finale, essentiellement pour des tirs de mortiers d'artifice visant les forces de l'ordre. Cette autre information BFM TV ce matin, ça concerne Jérôme Barella, qui est convoqué dans la matinée devant un juge d'instruction en vue de sa mise en examen pour le meurtre et le viol de la jeune Liana, souvenez-vous, fin mai. Dans la foulée de cette affaire, vous vous souvenez que le ministre Gérald Darmanin avait ordonné le réexamen de 88 000 procédures de violences sexuelles sur mineurs. Les magistrats avaient jusqu'à hier, pour les examiner, sans quoi ils ne partaient pas en vacances. Ce matin, dans le journal Le Parisien, le procureur de Créteil explique que son parquet a dû suspendre une partie de ses activités pour examiner près de 2000 dossiers. Et on verra ce qu'en dit Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement, invitée d'Apolline tout à l'heure à 8h30 sur RMC. La politique, ce matin, c'est aussi le projet de loi sur la fin de vie. 4 ans qu'on en parle, il a traversé absolument toutes les crises politiques. Et c'est aujourd'hui que les députés doivent, en principe, voter une quatrième et dernière fois ce texte ouvrant la voie à un droit à l'aide à mourir. Mais alors, jusqu'au bout, c'est difficile à suivre, Thomas Becker, puisque le Premier ministre Sébastien Lecornu a surpris tout le monde hier en annonçant la saisie, quoi qu'il arrive, du Conseil constitutionnel.
Oui, le Premier ministre explique que l'examen du texte au Parlement n'a pas répondu aux préoccupations des opposants. Énième rebondissement, puisque cette saisine du Conseil constitutionnel par le Premier ministre sonne comme une prise de distance face à la motivation inébranlable d'Emmanuel Macron, dont il est pourtant proche. Le président qui a poussé jusqu'au bout pour maintenir un calendrier serré sur ce projet ouvrant une aide à mourir. Sébastien Lecornu demande au juge de se pencher sur le délai de rétractation, 2 jours que les opposants jugent trop court, le libre arbitre des majeurs sous tutelle et enfin la clause de conscience pour certains établissements qui refusent de la pratiquer. Autant de mesures qui ont fait débat, même à l'Assemblée nationale. Sur le fond, même si ces mesures sont censurées, elles ne remettront pas en cause le principe de l'aide à mourir qui devrait être validé par une majorité de députés cet après-midi.
La canicule touche à sa fin et la météo s'améliore aussi à Fontainebleau. 800 pompiers et 3 Canadair restent mobilisés pour venir à bout des incendies qui sont désormais fixés. Et l'enquête, je vous le disais, avance. 4 suspects sont en garde à vue pour les départs de feu. Et parmi eux figure donc un jeune pompier volontaire de 18 ans. Il est passé aux aveux et c'est la sidération chez les pompiers de ce département qui Kinezeglo l'a rencontré pour RMC. Sidération chez les pompiers Kinezeglo donc a rencontré pour RMC.
Des heures passées à récupérer les dons, agencer les lits de camp, tous cherchent leurs mots.
Ça nous laisse sans voix quoi.
Je vous vois lever les yeux. Pourquoi ?
Olivier, bénévole, s'agace.
Bah, disons que j'ai toujours entendu parler des pompiers pyromanes. On se demande ce qui se passe dans leur tête. Ça fait mal au cœur parce que les dégâts sont énormes et vont être très longs à réparer. Quoi. C'est un truc fou. Quoi.
Rire jaune, fatigué.
On est débordé, je vous avoue. Mais quand on en parle, c'est tous la même réaction. Ça fout les boules.
Et pourtant, sur le parking, l'odeur âcre rappelle l'urgence. Celle des flammes qui font encore rage à quelques kilomètres. Alors il faut ravitailler encore, faire des allers-retours. Charger les packs d'eau à l'arrière du camion.
Quand je l'ai appris, j'ai pris une claque.
Souffle un pompier, mine défaite, les bottes encore tachées de suie.
Il y a de la colère dans vos rangs.
Forcément, qui est légitime. Je suis Guy Croignet, président du SDIS de l'Essonne, les pompiers de 91. Ils risquent leur santé, ils risquent leur vie. Ça les désespère. Ça ne les démotive pas, ça les désespère.
Le volontaire interpellé est d'ores et déjà suspendu. Heureusement, nous glisse un autre secouriste.
Et puis d'un mot, la route qui redevient plate aujourd'hui sur le Tour de France, 11e étape, 161 km normalement pour les sprinteurs entre Vichy et Nevers.
C'était le journal de Quentin Vinet, il est 8h09 et c'est l'heure de l'économie.
RMC, Apolline Matin,
le chiffre d'affaires.
Et bonjour Emmanuel. Emmanuel, bonjour, est-ce que la défaite de l'équipe de France en demi-finale de la Coupe du Monde est une mauvaise nouvelle pour l'économie française ?
À peine. D'abord parce qu'on a déjà eu des effets positifs sur le secteur de la pub, sur les paris sportifs, sur les ventes de télé, sur les ventes de maillots, sur la livraison des repas à domicile. Alors certes, les achats d'impulsion qu'on aurait pu avoir si on avait gagné la finale seront moins nombreux. Enfin, je pense par exemple aux achats de maillots, rappelez-vous, en 2018. Encore eût-il fallu que les maillots soient disponibles, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Reste évidemment que le principe qui demeure, c'est celui des vases communicants. Et ça, pour pour une raison simple, c'est que vous ne pouvez pas dépenser l'argent que vous n'avez pas. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que les consommateurs, bah, ils arbitrent en faveur de certaines dépenses, mais ils en sacrifient d'autres. Si, par exemple, vous décidez de changer de télé, bah, vous ne changez pas de canapé. Si vous regardez le match chez vous en commandant une pizza, bah, vous n'allez ni au cinéma, ni au resto. Et donc, il faut arrêter de fantasmer sur le coup de fouet à la croissance provoqué par la victoire en Coupe du Monde. En 98, certes, ça nous a rendus tous plus heureux. On a passé un bel été, mais grosso modo, il n'y a eu aucun effet sur l'activité économique. La preuve, c'est que la croissance a été plus faible à l'été qu'au printemps et plus faible à l'automne qu'à l'été. Il y a eu juste un petit effet sur, mais qui était avant la Coupe du Monde, c'était sur la rénovation des stades qui était important. Je crois que le seul stade qui a été construit, c'était le Stade de France. Je parle sous le contrôle
de Daniel Riolo.
Et puis rappelez-vous qu'on avait accueilli,
qui hochette de la tête.
On avait accueilli à l'époque des dizaines de milliers de touristes étrangers parce que c'était chez nous. Donc il n'y a qu'un perdant, c'est le secteur du foot lui-même, la fédération, puisque on aurait gagné la Coupe du Monde, on aurait reçu 44 millions d'euros de la FIFA, là ce sera 24. Il y aura un moindre engouement pour la fréquentation des stades qu'on constate après chaque victoire en Coupe du Monde. Et puis, bah oui, évidemment, pour tout le business du sport, la presse sportive, etc. Mais c'est pas grave, on va se consoler avec le Tour de France.
On va se consoler avec le Tour de France, évidemment. Alors il y a un coin qui ne nous consolera pas, ce sont les chiffres de l'énergie, comme chaque jour sur RMC. On revient avec vous précisément sur les chiffres et ils remontent à la pompe.
Le gazole en arrive à 2 euros le litre, c'est 13 centimes de plus que le 4 juillet. Je vous dis le 4 juillet parce que c'était le point bas. C'était le point bas aussi pour le sans-plomb 95. Là aujourd'hui on est à 1,94 euros le litre, c'est 6 centimes de plus que 4 juillet. Et pareil, le pétrole vaut 86 dollars le baril contre 71 et le gaz maintenant c'est 54 euros le mégawattheure. On est au plus haut depuis le 30 mars, 30% de hausse quand même sur le gaz depuis fin juin.
Et ne manquez pas, à 8h30, mon invité, ce sera justement la ministre de l'Énergie, Maud Bréjon. Il est 8h12 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Évidemment qu'on va en parler ensemble de cette défaite hier soir. On est un peu chaos. Bonjour Daniel Riolo.
Bonjour.
La voix de l'after, vous serez avec nous donc dans un instant. N'hésitez pas, vous nous appelez au 3216, vous nous laissez vos messages, le WhatsApp de l'émission 06 12 424 424, évidemment pour essayer de comprendre, à défaut de se consoler. À 8h30, je le disais, mon invité c'est la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, également ministre de l'Énergie. La guerre reprend au Moyen-Orient, l'Iran annonce que le détroit d'Ormuz est bel et bien fermé. Les conséquences sur les prix. Maud Bréjon, donc mon invité, à 8h30. A tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
C'est fini pour les Bleus dans cette Coupe du Monde. Le chemin s'arrête à Dallas. L'Espagne était trop forte. Les Bleus ont pris une petite leçon par les Espagnols. Ils peuvent rentrer tête basse après cette défaite 2-0.
Une petite leçon, une grande leçon. Fin du rêve bleu. Pas de finale pour les Français, éliminés hier en demi de la Coupe du Monde par l'Espagne. Bonjour Daniel Riolo.
Bonjour.
Daniel, on méritait mieux quand même.
Ah, sur le match d'hier, on ne méritait pas grand-chose. Non,
sur le match d'hier, non, mais surtout
sur
ce qu'on espère.
On méritait mieux alors.
Non, rien.
Non. Je crois qu'on a touché, exactement, on a pris une vraie raclée, on a touché totalement la limite. Limite, en revanche, qu'on n'a pas vu venir. Il est peut-être là le problème. Je l'ai souligné dès hier soir, les Coupes du Monde provoquent un enthousiasme général, un engouement, et on a vu ces Bleus beaucoup trop beaux. On s'est tous beaucoup trop emballés. On a tous beaucoup trop dit que le changement d'approche, de philosophie, Didier Deschamps était à remarquer. Et c'est vrai, on était toujours avec une équipe de France un peu restrictive, qui jouait toujours avec peu d'attaquants, qui attendait plus qu'il n'agissait. Et dans cette Coupe du Monde, c'est vrai qu'on est arrivé avec 4 attaquants, on les a peut-être trop vite baptisés. Ah, on a 4 joueurs fantastiques, les 4 fantastiques. On avait Olise, Mbappé, Dembélé, plus Barcola ou Doué, puisqu'ils se relayaient l'un l'autre. Et je crois qu'on s'est vu champion du monde beaucoup trop vite, en regardant trop peu les adversaires qu'on avait eu face à nous.
Des adversaires finalement pas jusqu'à présent vraiment coriaces.
En fait, on le répétait, on disait, il y a quand même pas grand chose quand vous jouez l'Irak, quand vous jouez la Suède, qui s'est qualifiée péniblement pour la Coupe du Monde, quand vous jouez l'équipe B de Norvège.
Même le Maroc, dont on disait, bon, allez, ça y est, on va enfin avoir un adversaire bon.
Le Maroc, c'est une bonne sélection, mais c'est pas le top mondial. Et comme finalement, on voyait en parallèle que d'autres gros galéraient un petit peu contre des, L'Espagne avait fait 0-0 contre le Cap-Vert en ouverture de la Coupe du Monde. L'Argentine a galéré en 16e de finale. Donc on disait, bon, pourquoi relativiser les prestations françaises? Après tout, regardez, il y a des gros qui souffrent contre des petits.
Il y a une forme de mea culpa, Daniel.
Oui, il y a eu une mauvaise analyse. Mais souvent les grandes compétitions internationales comme ça.
En fait, on se laisse griser, quoi.
Provoquent un engouement qui donne ce genre de sentiment. Et à l'arrivée, on se tamponne hier contre une équipe d'Espagne qui est bien meilleure que nous, collectivement, techniquement, tactiquement. Et on a vu un Didier Deschamps sans solution.
Sans solution,
aucune solution. Il a passé une sorte de pacte et de deal avec les joueurs avant la Coupe du Monde qui était, en gros, je fais ça brièvement, Mbappé est allé le voir en lui disant « Coach, on va y aller autrement ». Parce que 2024, c'est pas possible. 2024, les sondages indiquaient que plus de la moitié des Français voulaient que Deschamps s'en aille. On s'ennuyait devant la télé. C'était absolument horrible, le jeu de l'équipe de France. Allons-y maintenant avec quatre attaquants. On va y arriver. On va se sacrifier. On va tous courir. Moi, j'aime bien ce deal. J'ai beaucoup aimé ce deal. Parce que si c'était pour se taper les matchs des Bleus de l'Euro 2024, c'est pas possible. Et même en 2022, la Coupe du Monde. Oui, on est allé en finale, mais c'était pénible. Bon, ben là, ce pacte, il était très sympa, c'était très agréable, mais les adversaires étaient faibles et arrivé contre l'Espagne, on s'est pris un mur.
Nicolas est avec nous, qui nous appelle du Rhône, qui est paysagiste. Bonjour Nicolas.
Bonjour à tous vos auditeurs.
Comment vous l'avez vécu, vous?
Moi, je suis de ceux qui critiquaient le problème Mbappé avant la Coupe du Monde et à qui on a dit de se taire parce que Mbappé mettait des buts contre l'Irak. Donc, j'ai pas été spécialement étonné.
Mbappé est un problème. Sans lui, on ne gagne aucun match déjà.
Heureusement qu'il était là, il y avait au moins lui, quoi.
Moi, ce que je vois hier, c'est qu'on est encore avec ces quatre joueurs électrons libres et qu'au final, on n'a pas eu de schéma de jeu. On ne savait pas quoi faire du ballon face à une équipe qui était solide sur ses bases, qui avait un plan de jeu sérieux. Nous, on n'en avait pas. Le freestyle, ça a bien marché contre des équipes plus faibles. Et contre des équipes fortes, on a bien vu qu'hier, il n'y avait pas de solution.
Dans ces cas-là, il faut parler du coach. C'est au coach à mettre une tactique en place. C'est pas s'en prendre aux joueurs. Moi, je m'en prends à aucun joueur, finalement. L'entraîneur est responsable du choix des joueurs sur le terrain et de la façon dont, finalement, il n'a ni trouvé de solution, ni trouvé le bon schéma face à une grosse équipe. Il aurait certainement dû revenir avec un milieu de terrain plus renforcé. Mais j'ai envie de vous dire, très honnêtement, même avec un milieu de terrain plus renforcé, même avec une autre tactique, on est moins fort que l'Espagne, tout simplement. Il faut aussi avoir la lucidité de le dire.
À un moment, faut le reconnaître. Il faut quand même essayer de se projeter. Évidemment, il y a ce dernier match samedi, la petite finale. C'est un match pour du beurre.
C'est un match qui sert à rien du tout.
Ouais, c'est un match
pour du beurre. Qui sert à rien du tout, qu'on a inventé il y a des années pour faire une sorte de médaille de bronze.
Ouais. Parce que c'est un lot de consolation, quoi.
Ouais, mais même, enfin, je sais même pas en quoi ça console.
Parce que vous gagnez
cette petite finale. De toute façon, c'est une équipe B qui va jouer très probablement. Mais qu'est-ce que vous en faites de cette consolation?
Alors, on va se projeter plus loin. Zidane, beaucoup d'espoir évidemment.
C'est après combien 12 de Deschamps, 12 ans de Deschamps.
14, je crois.
14. Bon, bah oui, c'est une nouvelle aventure. Est-ce qu'il fera une équipe différente? Déjà, il a ses joueurs. Je ne vais pas tellement les changer. Il y aura peut-être une ou deux nouveautés. Mais effectivement, voyons voir ce que tu peux nous proposer. Quel genre de jeu tu peux nous proposer? Parce que c'est de ça dont on manque cruellement.
Si vous l'aviez là devant vous, vous lui diriez quoi?
De penser surtout à parler au directeur technique national et à tous ces jeunes qu'on forme et de trouver des milieux de terrain plus techniques.
Donc de changer les joueurs quand même?
Non, les joueurs, c'est juste qu'il va falloir qu'on forme et qu'on ait une approche différente dans la formation de nos joueurs. Les attaquants sont formidables, au milieu de terrain on a beaucoup de mal.
C'est fini là la Coupe du Monde, non?
Pour vous peut-être, moi je suis
Angleterre-Argentine. Mais je veux dire mentalement.
Oui, pour les Bleus, oui bien sûr, mais pour ceux qui aiment le foot, Angleterre-Argentine ce
ça
soir,
va être,
je suis très excité.
Ça va être un très 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 bon match.
La finale sera fantastique parce que l'Espagne contre l'un des deux qui va se qualifier, c'est une belle finale assurément. Mais oui, on a pris une grande claque hier. Mais je répète, ce manque de lucidité et le fait de ne pas avoir assez relativisé ce qu'on voyait rend la déception plus grande ce matin.
rend la déception d'autant plus douloureuse. Deuxième demi-finale ce soir, effectivement 21h, Angleterre-Argentine, à suivre en direct et en intégralité sur RMC. RMC en direct des États-Unis de 20h jusqu'à 5h du matin. Merci beaucoup Daniel Riolo. Merci. Évidemment, la voix de l'after. Il est 8h23 sur RMC et sur RMC Story. Dans un instant, je file sur BFM TV en plus d'RMC et je recevrai Maud Bréjon, porte-parole du gouvernement et ministre de l'énergie. Question notamment sur ces aides qui visiblement n'ont pas servi à grand chose, des aides au carburant. Est-ce qu'ils vont trouver plus efficace pour la suite? Parce que les prix, ils continuent, ils reprennent leur remontée. Le diesel qui est au-dessus des 2 euros. 8h23, tout de suite. Merci d'écouter RMC, il est 8h24.
RMC, Apolline Matin.
Le rappel des titres, Clément Gouitz.
La désillusion est immense ce matin. Les Bleus se sont heurtés à plus fort qu'eux. L'Espagne défaite 2-0 hier soir en demi-finale du Mondial. Pas de troisième finale consécutive pour les hommes de Didier Deschamps. Les Espagnols vont connaître ce soir leur prochain adversaire, le vainqueur de la rencontre Argentine-Angleterre. C'est à vivre à 21h sur RMC. Soulagement, ce matin, l'incendie de Fontainebleau est fixé. 4 personnes, dont un pompier volontaire, ont été interpellées actuellement en garde à vue. Le feu, lui, a parcouru depuis dimanche plus de 2000 hectares. Les pompiers sont toujours mobilisés ce matin. Jérôme Barella, principal suspect dans le meurtre de Liana début juin dans le Gers, va être entendu aujourd'hui par un juge d'instruction. C'est ce que nous apprend ce matin BFM TV, convoqué en vue de sa mise en examen pour meurtre. Place aujourd'hui à la 11e étape entre Vichy et Nevers, longue de 161 km. L'intégral tour, c'est sur AMC dès 14h.
C'était le rappel des titres de Clément Gouitz. Dans un instant, mon invité, c'est la porte-parole du gouvernement et ministre de l'énergie, Maud Bréjon. Et je reviendrai notamment sur ce détroit d'Ormuz, à nouveau fermé, les prix du baril qui remontent. Et on apprend justement que les aides au carburant, elles ont été mal ciblées, mal ficelées, peu utilisées par les Français. Maud Bréjon, dans un instant, à mon micro.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin. Face à face. Apolline de Malherbe.
Vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Maud Bréjon.
Bonjour.
Vous êtes porte-parole du gouvernement, vous êtes ministre délégué à l'énergie. De très nombreuses questions à vous poser sur l'énergie parce que les prix remontent, parce que le détroit d'Ormuz est à nouveau fermé et parce que, semble-t-il, les aides carburants qui avaient été promises, parfois versées, ont manqué leur cible. C'est ce que dit d'ailleurs un rapport parlementaire. Mais d'abord, la désillusion, la tristesse, la fin des Bleus en Coupe du Monde hier... Comment vous réagissez? Comment le gouvernement a vécu ça?
Écoutez, c'est une déception, évidemment. On avait tous placé beaucoup d'espoir dans cette équipe. Moi, ce que je voudrais dire ce matin, c'est qu'elle nous a fait rêver pendant des semaines. Qu'on soit jeune ou moins jeune, fan de foot ou moins fan de foot, ça a été de vrais moments de joie, de vrais moments d'espoir, de vrais moments d'union nationale. Et si vous me le permettez, je voudrais avoir un mot pour Didier Deschamps. Voilà, a priori, c'était son dernier match, son avant-dernier match.
Il y en a encore un samedi soir.
Exactement.
Enfin, effectivement, c'était un peu un match en bois.
Et voilà, c'est quelqu'un qui, depuis des années, a mené cette équipe de France au plus haut niveau, qui est rentré, je pense, dans le salon des Français, à qui on est tous beaucoup attachés. Et donc, je vous le dis parce que j'ai entendu quelques... critique ce matin sur voilà l'organisation de l'équipe. Moi, je suis pas spécialiste de foot. Ce que je peux vous dire, c'est
mais
que
vous trouvez ça déplacé ?
Il a, en tout cas, je crois qu'après toutes ces années, il a profondément marqué le football français. C'est quelqu'un qui l'a
on
fait.
On projette avec, Zidane.
En tout cas, il l'a fait avec humilité, avec générosité. Et donc, bienvenue à Zidane, bien sûr, qui est aussi une grande figure du football français. Mais voilà, je pense que c'est important dans ce moment d'avoir un mot pour
ça. Ça nous a fait du bien. Ça nous a fait du bien, d'autant plus que effectivement, quand on commence à regarder dans le détail la situation, notamment économique du pays, c'est pas franchement flambant. Je voudrais vous revenir ce matin avec vous sur les prix du carburant qui repartent à la hausse ce matin, et c'est assez symbolique. C'est à nouveau 2 euros le litre pour le diesel, le prix du baril qui remonte aussi à la hausse cette nuit. Vous êtes la ministre de l'énergie, on fait quoi?
Bon, d'abord, il y a une grande incertitude sur ce qui se passe au Moyen-Orient et donc il convient d'être extrêmement prudent dans la manière dont on aborde ce sujet. Il y a une reprise des tensions depuis quelques jours maintenant. Je ne sais pas vous dire dans quelle mesure ces tensions vont continuer à perdurer. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que personne sur place ou à l'extérieur n'a intérêt à l'embrasement. L'intérêt des uns et des autres, des différentes parties prenantes, c'est que le calme puisse revenir dans la région et que ce détroit d'Ormuz puisse réouvrir de manière pacifique et coordonnée. C'est ce à quoi travaille le président de la République depuis le départ. Maintenant, on voit bien sûr les impacts que cela pourrait avoir. Je parle évidemment...
Enfin là, quand on regarde les chiffres rien que ce matin dans les pompes à essence de France, ça a déjà un impact.
Oui, mais dans les semaines à venir, encore une fois, je suis très prudente. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons toujours été aux côtés des Français, et notamment des Français les plus modestes. Nous avons toujours été aux côtés des secteurs d'activité les plus en difficulté. Rappelez-vous ce que nous avons fait pour les agriculteurs, pour les pêcheurs, pour les transporteurs, au moment où le prix du carburant était le plus haut. Et donc, on maintiendra évidemment cette ligne. Mais aujourd'hui, il est un peu tôt, pour voilà, se projeter dans des semaines d'embrasement d'inflation des prix du carburant. Je comprends,
mais vous maintenez cette
bien
ligne,
sûr, je comprends,
cette ligne
je comprends la difficulté, et je comprends l'inquiétude que peuvent ressentir aujourd'hui certains Français qui partent en vacances. On est dans une période où on consomme beaucoup de carburant, là encore, nous le savons. Encore une fois, depuis
mais vous le savez, mais
mars
qu'est-ce
dernier,
qui va se passer ?
Quelle a été notre ligne ? On a choisi de faire des aides ciblées qui permettaient de protéger les Français les plus modestes, de protéger les secteurs d'activité les plus en difficulté, en étant respectueux des finances publiques, parce que c'est
vous avez
une
lu,
réalité
j'imagine,
qu'on ne peut pas
Maud
ignorer.
Bréjon, les conclusions de ce rapport, cette mission flash sur la taxation des carburants et sur les aides. On a arroser du sable, voilà ce que dit Philippe Brun, le rapporteur de cette mission.
Oui, je trouve que c'est extrêmement méprisant pour tous les Français, d'abord, les plus d'un million de Français qui ont touché l'aide gros rouleur de 100 euros, qui en avaient réellement besoin.
Vraiment
plus d'un million cent. Voilà, je vous le donnerai pas à l'unité près, mais plus d'un million cent à l'avoir demandé et à l'avoir d'ores et déjà touché. Je pense que pour les secteurs d'activité...
Moi, mon chiffre, c'était 1 million qui l'ont demandé, mais seulement un peu plus de 800 000 qui l'ont touché.
1 million 100
ce matin qui l'ont 1 million 100 touché.
1 million 100 qui l'ont touché. Voilà. Dire qu'on a arrosé du sable lorsqu'on a aidé, encore une fois, des agriculteurs, des pêcheurs, des transporteurs, le secteur du BTP qui était demandeur, qui en avait besoin, quand on a mis en place des réductions de 15 centimes par litre pour un grand nombre de secteurs, de ces secteurs que je viens de citer. Voilà, que ce que dit ce rapport est à côté de la réalité. Maintenant, est-ce qu'on aurait pu faire davantage, puisque c'est ce que pointe Philippe Brun. Philippe Brun dit, il aurait fallu baisser les accises, baisser les taxes.
Il prend modèle de l'Espagne et de la Grèce en disant que l'un comme l'autre ont davantage aidé et surtout ont davantage touché ceux qu'ils voulaient vraiment aider.
Oui, combien l'Espagne a déboursé pour ses aides ?
À peu près 700...
7 milliards.
Voilà.
7 milliards. Nous avons déboursé 1,2 milliard d'euros.
Oui, mais
c'est
parce
une
que l'Espagne
réalité
avait fait plus d'efforts avant.
Parce que l'Espagne avait fait plus d'efforts avant. Mais merci, je suis contente de vous l'entendre dire. Et j'aimerais le dire ce matin à Philippe Brun.
Mais pardon, s'il est au pouvoir depuis 10 ans.
Je peux terminer. Si l'Espagne, aujourd'hui, a un déficit de 2,2% de mémoire, est en capacité de faire ces aides-là lorsqu'elle traverse des crises, c'est parce qu'elle a su faire des réformes. Et permettez-moi de le dire, elle a notamment réussi à faire une réforme des retraites en 2027. L'âge légal de départ à la retraite en Espagne sera 67 ans. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut faire la même chose en France, mais je voudrais quand même mettre Philippe Brun en face de ses contradictions entre ce qu'il demande à la France et au gouvernement français de faire, en prenant comme exemple un pays tiers, en l'occurrence l'Espagne, qui a fait des efforts qu'en France, une partie de la gauche refuse de faire. Donc, tout ça pour dire une chose, si on veut aider les Français en temps de crise, et on l'a fait, il faut avoir une démarche respectueuse des finances publiques et retrouver une trajectoire saine des finances publiques, ce qui nous amènera au budget de l'automne.
Maud Bréjon, encore un point sur ces aides, parce que vous dites, tous ceux qui l'ont demandé l'ont touché. J'ai eu ce matin un auditeur, Alexis, qui est cheminot dans le Nord. Il fait 60 km, un peu plus de 60 km par jour en voiture. Il a demandé l'aide. Il est tout à fait convenu, et il a eu d'ailleurs plusieurs personnes, parce qu'il a fini par appeler, il y avait, semble-t-il, un bug sur l'application, qui lui disent qu'en effet, il est tout à fait éligible à cette aide, mais qu'il y a un problème sur les hybrides non rechargeables qui sont éligibles, mais qui rentrent pas dans la machine, dans le CERFA, et on lui dit, vous la toucherez probablement fin août, alors qu'il a fait cette demande il y a déjà 2 mois. Ça vous paraît normal?
Alors, je l'ai écouté ce matin, vous l'avez entendu sur RMC. J'ignore ce cas particulier. Et ce que je peux dire, c'est qu'évidemment, notre responsabilité, c'est de mettre en place des dispositifs les plus simples possibles, de telle sorte que le recours puisse être le plus simple possible.
Philippe Brun, il me dit que 2/3 de ceux qui sont éligibles à cette aide ne l'ont même pas demandé.
Alors, c'est moins de 2/3 en réalité, 40% environ. Un peu moins de 40% un peu moins de 40% de ceux qui étaient éligibles l'ont demandé et l'ont
perçu. Ça veut dire que 60% de ceux qui sont éligibles à cette aide ne l'ont même pas demandé.
Ça veut aussi dire que le chiffre avancé par Philippe Brun n'est pas correct.
Oui, enfin, ça veut quand même dire que 60%. Ensuite, alors, revenons, oublions Philippe Brun. On est quand même à 60% de Français qui ont droit à cette aide qui ne l'ont pas faite. Ça veut dire que vous avez raté votre cible.
Pardonnez-moi, je suis pas du tout d'accord avec vous, Apolline de Malherbe. On a ouvert une aide, encore une fois, pour 3 millions de Français.
Et il y en a qu'un million du coup qui l'a demandé. 1,1 million.
On a assumé qu'il faille une démarche volontaire pour toucher cette aide.
Compliqué, semble-t-il, hein, si j'en crois.
Et je vous invite à aller sur le site et à faire une simulation de demande comme si vous étiez ayant droit. Vous verrez que c'est en fait assez simple, qu'un certain nombre de vérifications sont faites automatiquement par l'administration fiscale. On a volontairement mis en place le portail le plus simple
possible. Comment vous expliquez?
Moi, j'estime, Apolline de Malherbe, que lorsque l'État met en place une aide, un chèque, il est normal qu'il y ait une démarche volontaire de la part des personnes qui veulent
en
bénéficier.
Comment vous expliquez que 2 millions ne l'aient pas demandé?
Bien, on regardera, encore une fois, avec du recul, ce qui s'est passé. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a plus d'un million de personnes, c'est beaucoup plus d'un million de personnes qui ont eu recours à cette aide de 100 euros, qu'il y a des milliers et des milliers d'entreprises qui ont eu recours aux aides. Encore une fois, je ne vais pas vous citer de nouveau les secteurs, agriculteurs, transporteurs, pêcheurs, pour qui c'était utile. Et un dernier point qu'on oublie, c'est le chèque énergie qui a été versé en avril. Entre 150 et 270 euros qui sont versés chaque année aux populations les plus précaires, plus de 4 millions de personnes. Plus de 4 millions de personnes l'ont touché de manière automatique. Donc, est-ce qu'on aurait pu faire davantage?
Vous ne changerez pas.
Toujours
vous
dire qu'on pourrait
pas
faire davantage, mais on a été aux côtés des Français.
On a bien compris,
mot
de raison, que donc les prix non seulement remontent, mais ne sont pas prêts, semble-t-il, de redescendre. Est-ce que les aides vont être poursuivies? Est-ce qu'elles vont être adaptées? Est-ce qu'elles vont être changées? Qu'est-ce qu'on fait?
Bon, d'abord, on va s'assurer que l'été se déroule correctement sur le plan des approvisionnements. Ce que je peux vous dire ce matin, c'est qu'il n'y a aucun risque de rupture d'approvisionnement aux stations-service pour les Français qui nous écoutent. On va évidemment suivre l'évolution des prix avec la plus grande attention. On avait annoncé que ces aides valaient pour 3 mois, et donc on va arriver fin juillet au bout de cette échéance-là. On fera évidemment un point, on pourra faire évidemment le bilan, mais là encore, fonction de la manière dont les prix auront évolué. Ça fait 2-3 jours que les tensions reviennent au Moyen-Orient, en tout cas avec ce niveau d'intensité, il convient encore une fois, je le redis, d'être extrêmement prudent.
Maud Bréjon, les incendies, le grand feu de Fontainebleau semble être fixé, pas encore éteint, mais fixé à ce stade. On a combien de canadairs?
On a 12 canadairs.
Vous vous souvenez sans doute que Emmanuel Macron avait promis, et les mots datent du 28 octobre 2022, nous allons faire en sorte que leur nombre soit porté à 16 d'ici la fin du quinquennat.
Alors, on a 12 canadairs et on a 8 Dash. En réalité, il convient de parler de l'ensemble des avions dits bombardiers d'eau.
Donc Emmanuel Macron s'est trompé?
Non. C'est pas ce que je dis. J'explique à vos auditeurs. Vous savez ce qu'on a fait en 2017 quand on est arrivé? Vous savez ce qu'a fait Gérard Collomb, paix à son âme, ministre de l'Intérieur, lorsqu'il est arrivé place Beauvau? Il a immédiatement lancé une commande de 6 Dash, qui sont des avions bombardiers d'eau, que nous avons reçus. Nous avons ensuite commandé 2 Canadair, puis 2 nouveaux Canadair supplémentaires, et les moyens alloué à la lutte contre les incendies, au risque incendie, ont augmenté de 40% entre la période 2019-2022 et 2022-2025. Donc, là encore, nous nous préparons, nous renforçons nos moyens, nous renforçons aussi nos moyens de par la coopération que nous mettons en place avec nos voisins européens qui fonctionnent
très bien. Mais on est bien d'accord, Maud Bréjon, que lorsque Emmanuel Macron a dit nous allons faire en sorte que leur nombre, le nombre de Canadairs soit porté à 16 d'ici la fin du quinquennat, ça ne sera pas le cas.
On a porté les Canadairs d'abord à 12, on en a commandé deux supplémentaires. Il faut laisser le temps à l'outil de production de nous livrer ces Canadairs. Il y a des tensions. Pardonnez-moi.
Je reprends, c'est important. Je comprends bien, mais j'imagine qu'il avait ces informations, Emmanuel Macron. Pourquoi il nous a dit qu'il y aurait 16 Canadairs avant la fin du quinquennat s'il savait tout ça?
Alors, d'abord, la réalité industrielle, les tensions qu'il peut y avoir sur les lignes de production lorsque une entreprise fait face à de nombreuses commandes ne sont pas toujours prévisibles. Non. Et ensuite, encore une fois, le budget est là. Les commandes ont été passés. Nous avons, je le redis, ça n'a jamais été.
Gabriel Attal a coupé 50 millions de budget de la sécurité civile. C'est d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon qui le dit, mais j'ai vérifié les chiffres. Il a parfaitement raison, Jean-Luc Mélenchon.
Ce que Jean-Luc Mélenchon dit, c'est que deux Canadairs avaient été commandés et que il y en avait deux autres en option. Plus précisément, ça, il ne le précise pas, mais c'était bien deux autres en option et que du fait des difficultés d'approvisionnement, ils n'ont pas été immédiatement confirmés. Encore une fois, j'entends l'inquiétude des Français. Moi, ce que je peux vous dire...
Jean-Luc Mélenchon dit précisément, en coupant dans les dépenses publiques, Gabriel Attal a fait annuler une commande de deux Canadairs. Résultat, nous n'avons pas plus d'avions qu'en 1984. Nous sommes capables de faire l'avion de guerre le plus performant, le Rafale, mais nous serions incapables de déployer les A400M, des avions transformés en bombardiers d'eau pour lutter contre les incendies.
Avoir des grandes leçons de Jean-Luc Mélenchon sur la lutte contre le risque incendie, pardonnez-moi, mais ça a de quoi nous faire rire jaune. Lorsqu'on a voté des lois à l'Assemblée nationale, j'étais parlementaire... Pour lutter contre ce risque incendie, la France insoumise a voté contre. Lorsqu'on vote des moyens pour renforcer les budgets de l'intérieur, de la sécurité civile, de l'armée, la France insoumise vote contre. Donc se feindre d'un tweet un dimanche soir ou un lundi soir pour critiquer tout ce qui a été fait ou tout ce qui n'aurait pas été fait ces dernières années, c'est d'une simplicité, pardonnez-moi, qui est complètement en décalage avec la réalité. Moi, ce que je veux vous dire ce matin, c'est qu'on a augmenté les moyens aériens, qu'on a augmenté les moyens terrestres, le nombre de véhicules, qu'on a formé davantage de sapeurs-pompiers, davantage de militaires. On a aujourd'hui 250 000 sapeurs-pompiers formés en France, dont 200 000 volontaires. Et je les en remercie du fond du cœur parce qu'ils font un travail absolument formidable.
Mais Maud Bréjon, bien sûr que tout le monde les remercie, mais à un moment, on peut aussi être lucide. La flotte de Canada français, elle a 30 ans en moyenne.
Mais encore une fois, je ne vous dis pas, Apolline de Malherbe, qu'il ne faut pas investir. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas la renouveler. Je vous dis que ce renouvellement a été entamé.
Moi, je prends les mots d'Emmanuel Macron. Nous allons faire en sorte que le nombre de Canadairs soit porté à 16 d'ici la fin du quinquennat. Et je comprends.
Dès 2017. Mais cette trajectoire est maintenue. Il y a des difficultés de production, il y a des difficultés d'approvisionnement, mais cette trajectoire est maintenue. Canadairs ne sont pas l'alpha et l'oméga de la lutte contre le risque incendie. Les moyens terrestres, les moyens humains sont aussi absolument
j'entends
essentiels.
Votre réponse canicule, les alertes rouges sont levées, mais il fait encore extrêmement chaud. Deux questions. D'abord, est-ce que vous avez un chiffre plus précis sur le nombre de morts à déplorer dû à la canicule pour la première vague et celle qui vient de se terminer?
Non, je n'ai pas de bilan à donner ce matin. Et bien sûr, j'ai une pensée, comme vous, pour toutes les familles qui auraient été touchées.
Il y avait cette annonce, 30 000 climatiseurs commandés en urgence pour les hôpitaux.
Oui.
Combien ont été livrés?
Nous mettons cet objectif, c'est 16 500 seront livrés d'ici à la fin de la semaine, auront été livrés d'ici à la fin
dimanche,
de la semaine.
16
500, pour être précise. Et 30 000 seront bel et bien livrés d'ici à la fin du mois de juillet. Nous suivons donc l'objectif qui est le nôtre.
6 000 la semaine dernière, ça veut dire qu'il y en a 10 000 de plus cette semaine.
6 000 la semaine dernière, c'était 8 000 en fin de week-end, début de semaine, dimanche ou lundi. L'objectif de 16 500 sera tenu d'ici à la fin de la semaine, 30 000 fin juillet. 70%, je le précise, ont été livrés dans des départements en vigilance rouge. Voilà, chacun comprend bien pourquoi.
La fin de vie. Le vote très attendu aujourd'hui. Et Sébastien Lecornu qui, dans ce contexte, a annoncé qu'il allait saisir le Conseil constitutionnel. Est-ce que ça veut dire qu'au fond, il doute?
Non, ça veut dire que c'est des débats qui sont d'abord extrêmement complexes, extrêmement personnels, extrêmement intimes, qui soulèvent un certain nombre de questions. Et donc, comme Gérard Larcher a annoncé le faire, le Premier ministre a annoncé saisir le Conseil constitutionnel, là encore pour lever d'éventuels doutes sur certaines dispositions de cette loi, ce sera au Conseil constitutionnel, de regarder l'intégralité de cette loi. Là encore, c'est une action qui est en fait assez régulière lorsque
Il n'était pas obligé de le faire. Il le fait parce qu'il estime que c'est important.
Je crois que cette loi est absolument majeure au sens où elle touche tout le monde. Moi, j'y suis opposée. Je vous le dis tel que je le pense. J'aurais voté contre cette loi. C'est pas le sujet. Quoi qu'on en pense, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, c'est une loi importante. Et donc, aller au bout de la démarche, au fond, ne serait-ce que pour que les choses se passent au mieux derrière, il me semble que c'est important. Voilà. Et donc, le Premier ministre, en concertation avec le président de la République, contrairement à ce que j'ai pu entendre, a pris cette décision. Je le dis parce que voilà,
c'est en concertation avec Emmanuel Macron. Ça n'est pas en contradiction avec Emmanuel Macron.
De vos confrères ont laissé entendre qu'il aurait pris cette décision
en force, en quelque sorte.
Seul, je peux vous dire ce matin que le président de la République et le Premier ministre ont pris cette décision conjointement il y a une semaine en amont du Conseil des ministres de mercredi.
Merci de vos réponses. Maude Bréjon, vous êtes donc la porte-parole du gouvernement et ministre déléguée à l'énergie. Il est 8h47 sur RMC BFM TV. Dans un instant, le choix de la rédaction et les toutes dernières infos Coupe du Monde.
RMC, Apolline Matin.
Vous êtes bien sûr RMC, il est 8h49. Le mondial d'Antoine, c'est avec vous Antoine Salva. Bonjour Antoine.
Bonjour, Apolline.
Dans un instant, vous nous le direz, la France est inconsolable après la défaite des Bleus. Mais avant cela, c'est l'heure du choix de la rédaction avec Martin Lange. Bonjour Martin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous.
Martin, vous êtes le correspondant d'RMC pour l'Ouest et vous nous emmenez ce matin dans le monde de la pêche, frappé de plein fouet par la crise du carburant, les pêcheurs qui sont obligés d'arrêter la pêche parfois et de se consacrer à d'autres activités pour tenter de sauver leur entreprise. Ça se passe dans le Finistère.
Oui, c'est un petit tremblement de terre ici à Pauline. Les 6 chalutiers hauturiers du port de Loctudy, ce sont les plus gros bateaux qui partent au large pendant plusieurs jours, arrêtent leur activité de pêche pendant 3 mois. À la place, ils vont aller surveiller le chantier d'installation d'un câble électrique dans le golfe de Gascogne, une activité bien plus rémunératrice. Ludovic Lelay est l'armateur de 5 de ces bateaux.
Le constat, il était assez simple. On a quand même près de 53% d'apport en moins sur 5 ans. Nous, aujourd'hui, on gagnait plus d'argent sur les derniers mois. Les hommes qui partent en mer sur des durées de 15 jours, ils font un métier qui est extrêmement dur. Mais aujourd'hui, pratiquer un tel métier pour ne pas en retirer de bénéfices, ça devient très, très délicat. On n'a pas pris cette décision de gaieté de cœur. Elle était devenue plus que nécessaire pour nous. On n'avait plus le choix. Il fallait trouver une solution. Alors celle-là, c'en est une.
Pas de pêche pendant 3 mois, ça veut dire donc évidemment aussi pas de poisson, hein.
Oui, tout à fait, Apolline. D'autant que ces chalutiers qui partent en haute mer sont ceux qui ramènent le plus de poissons. La moitié des 2500 tonnes passées par la criée de Loctudy l'an dernier. Alors, avec cette pause de 3 mois, Yves Guiriec, le gestionnaire de la criée, a fait ses calculs.
Ça représente à peu près 350 tonnes. Une absence massive comme ça de produits impose forcément que nous ayons des mesures immédiates. Nous avons suspendu l'ensemble des contrats saisonniers. On se laisse 3 semaines pour observer combien y aura-t-il d'acheteurs tous les jours, quelle est l'incidence sur les prix moyens, auquel cas on va limiter peut-être les ventes. Pas à 5 ventes par semaine, mais à 3 ventes par semaine. C'est un signe qui interroge la filière, évidemment.
Qui interroge la filière et puis qui inquiète toute une ville.
Loctudy, c'est 300 emplois directs ou indirects. Des emplois déjà mis à mal il y a 3 ans. Rappelez-vous le Brexit, un plan de sortie de pêche. Ici, c'est une vingtaine de navires qui sont partis à la casse. Mais le port, ce n'est pas que la pêche et l'emploi. Écoutez le maire, Cyril Osnard.
Beaucoup d'enfants viennent des communes extérieures et sont scolarisés dans nos écoles parce que les parents travaillent sur la zone portuaire. Le tourisme aussi, c'est quelque chose d'important pour notre commune, mais c'est vrai que c'est en lien avec le port. Pendant 3 mois, il va falloir faire le dos rond. C'est sûr que c'est difficile, c'est sûr qu'il y a de l'argent en jeu, mais il faut faire le dos rond parce qu'on sait que les bateaux vont revenir après. On tient à notre port et on se battra pour notre port.
Un port qui s'est diversifié ces dernières années en misant notamment sur la culture des algues ou encore des moules.
Et ce qui se passe dans le Finistère, Martin, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres d'un modèle en bout de course, hein.
Oui, entre des volumes de poissons qui baissent, vous l'avez entendu, des charges, notamment le carburant qui explose, et une concurrence souvent moins vertueuse, ce sont 12 000 emplois liés à la pêche qui sont en jeu, rien que dans le Finistère. Le président du département, Maël Decalan, tire donc la sonnette d'alarme.
On parle de beaucoup d'emplois et de beaux emplois industriels, des emplois qui payent bien, des emplois qui sont basés dans des petites villes côtières dans lesquelles on aura beaucoup de mal à remettre de l'activité si on laisse partir cette filière. C'est pour ça que nous, on se bat bec et ongles pour les garder, d'autant plus que les Français n'ont jamais mangé autant de poissons qu'aujourd'hui. Malheureusement, c'est du poisson d'importation. Et nous, ce qu'on veut dire à la fois aux consommateurs et aux pouvoirs publics, c'est qu'il faut qu'on préserve cette industrie. On a laissé partir l'acier, on a laissé partir le textile. Il ne faut pas qu'on laisse partir notre pêche.
Un appel à manger du poisson français relayé par tous mes interlocuteurs. Aujourd'hui, trois quarts des produits de la mer consommés en France sont importés.
Merci Martin. Martin Lange, donc correspondant à RMC dans l'ouest de la France. Et l'équipe de France n'ira pas en finale.
RMC, le mondial d'Antoine.
Antoine Salva, journaliste RMC Sport, vous êtes toujours avec nous. Des illusions immenses après l'élimination de l'équipe de France hier soir.
Oui, Apolline, l'histoire retiendra que notre rêve d'une troisième finale consécutive s'est fracassé hier dans le Texas face à l'Espagne, championne d'Europe en titre. Le carton de Rabiot, puis la faute de Digne offrant un pénalty à Oyarzabal, ont rapidement donné le ton de cette demi-finale à sens unique qui a vu les Français être menés au score pour la première fois de la compétition. Battus 2-0, les Bleus n'ont jamais réussi à revenir dans le match. Un sentiment d'impuissance et des olés qui sont rapidement descendus des tribunes. Hier, notre attaque, pourtant la meilleure de la compétition, est mise sur un piédestal ces dernières semaines, n'a pas existé. Selon Opta, le total d'expected goals, le nombre de buts attendus, à 0,3, est le pire de la France depuis 60 ans en Coupe du Monde. La claque est difficile à encaisser. Nous avons peut-être été bercés d'illusions par un parcours relativement facile jusqu'au dernier carré. Au final, c'est une élimination logique pour Didier Deschamps.
C'est le très haut niveau. On a une équipe d'Espagne qui est très forte. On n'a pas trouvé les solutions. Sur un tel match, face à une telle équipe, il faut être au maximum, mais l'équipe de France ne l'était pas ce soir.
Le sélectionneur espagnol résumait lui cela avec une phrase simple. L'une des meilleures sélections a été battue par la meilleure équipe du monde.
Mais le tournoi n'est pas totalement terminé pour les Bleus. Hein.
Oui, le dernier match de Didier Deschamps, samedi à 23h. Les Bleus joueront donc la finale pour la troisième place à Miami. Autant dire qu'hier, c'était très difficile de s'y projeter pour Ryan Cherki.
Pour l'instant, on n'a qu'une seule envie, c'est oublier ce qui vient de se passer. Parce que c'est dur, c'est très très dur.
Morale dans les chaussettes pour les joueurs, aussi pour les supporters.
Quand il n'y a plus de musique et t'es tout seul sur la piste, il faut que t'arrêtes de danser. Là.
Et oui, comme le dit Orelsan, la fête est finie. Et les fans croisés hier dans le 11e arrondissement de la capitale étaient eux aussi très déçus.
Même pas d'émotion, ils ont tué le match. Tactiquement, c'était terrible.
Après, on est quand même fiers de la Coupe, c'était une dinguerie. Ils nous ont fait vibrer contre le Paraguay, le Maroc, c'était fou. On retient quand même.
Et on espère en 2030, on va la chercher avec Zidane.
Peut-être qu'on ne sait pas répondre aux grandes confrontations, on ne sait pas répondre aux grands événements et aux grosses interviews.
Bon, Apolline, le nom de Zidane a été prononcé. Avant de penser à la suite, laissons d'abord Deschamps finir son incroyable mandat de 14 ans avec brio.
Antoine, ce soir, les Espagnols, eux, ils vont pouvoir regarder tranquillement l'autre demi-finale entre l'Angleterre et l'Argentine.
Faute d'un remake de 2022, on pourrait avoir celui de la finale du dernier Euro remporté par la Roja face à l'Angleterre. À Atlanta, comme dans tous les stades du monde, les supporters anglais sont prêts à chanter à tue-tête sur un Wonderwall d'Oasis, par exemple. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. Et l'attente est très importante de l'autre côté de la Manche où l'on attend un titre depuis le sacre de 1966.
Cette deuxième demi-finale est d'ailleurs un match très spécial. Hein.
Ah oui, c'est bien plus qu'un match. Hein. Une relation historiquement conflictuelle entre ces deux pays concernant les Malouines, archipel de l'Atlantique Sud sous pavillon britannique, mais revendiqué par l'Argentine. En 1982, une guerre express avait fait près de 700 morts côté argentin. Depuis, ces derniers se sont vengés sur le terrain avec la main de Dieu signée Maradona au Mondial 86. L'hymne des supporters en garde une trace aujourd'hui. Malouine pour Diego, pour la dernière de Léo, l'Argentine veut faire le doublé. Voilà pour les paroles de cet extrait de la Cuarta Estrecha. Dans ce contexte hein, potentiellement tendu, la sécurité à Atlanta a d'ailleurs été renforcée pour éviter des affrontements entre supporters.
En espérant que ça se passe bien. Antoine, ce qui devrait bien se passer, ce sont les shows organisés lors de la finale dimanche.
Oui, deux événements dans l'événement à New York, une cérémonie de clôture avant le match avec... Robbie Williams, bien sûr. Il y aura aussi Laura Pausini, Nicole Scherzinger et la présence.
Oh, il sera là?
Eh oui.
Allez.
Tom Cruise, bien sûr. Et puis la partie très US de cette finale, le show de la mi-temps. Au lieu des 15 minutes classiques, la pause pourrait atteindre 30 minutes pour un spectacle annoncé comme grandiose. Pour le moment, seulement certains noms sont déjà connus. Justin Bieber, Madonna, Burna Boy ou Shakira. Allez, c'est peut-être la dernière fois de l'été qu'on écoute, hein. Et pour assister à ce show, à la finale aussi un petit peu, hein, les prix sont exorbitants, des tarifs parfois triplés. Hier, un site spécialisé évaluait le tarif le moins cher à 4 500 euros, le plus onéreux à 189 000.
Merci Antoine. Antoine Salva, journaliste RMC Sport. Deuxième demi-finale, c'est ce soir 21h, Angleterre Argentine, à suivre évidemment en direct et en intégralité sur RMC. RMC qui sera en direct des États-Unis dès 20h jusqu'à 5h du matin. Dans un instant, c'est les GG. Quel est le programme, Olivier?
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Les grandes gueules se préparent. Alors, je vous cache pas qu'on a un peu tous la gueule de bois ce matin dans les GG après la défaite cinglante de nos Bleus hier. On va en parler dans les grandes gueules, bien entendu. Même Charles Consigny a vu le match, c'est dire. On sera aussi avec Joël Dagossiri. Et puis une petite nouvelle au Philly Rock qu'on va vous présenter. Et Jérôme Roten sera également face aux grandes gueules. À tout de suite.